Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints si nombreux pour cette conférence sur le jeu vidéo et en l'occurrence sur la thématique « Peut-on jouer de tout ?». Alors avant de commencer, on va désamorcer tout de suite. Peut-on jouer de tout ? Évidemment, ça fait écho à « Peut-on rire de tout ?». Et bien entendu, on peut sortir la réponse classique « Oui, mais pas avec n'importe qui ». Ça marche aussi pour le jeu. Donc c'est pas ça qui va nous intéresser ce soir, c'est plus de travailler sur tous les points peut-être délicats, les sujets de controverse que le jeu peut aborder ou le fait que le jeu aborde certains sujets qui portent à controverse, ainsi que toutes les problématiques qu'on peut imaginer derrière ça. Notez que nous allons assez rapidement rendre cette conférence interactive, c'est-à-dire que si vous avez évidemment des réactions ou des questions, nous les utiliserons pour alimenter le débat. Je vais commencer par présenter nos deux invités rapidement.
Près de ton micro, peut-être.
Alex, à ma gauche là-bas, Pierre Corbinet.
Bonjour.
Qui est entre autres écrivain, on va dire, dans le domaine du jeu vidéo, et l'auteur de ce blog que je vous conseille, qui s'appelle Loujvipo, en référence évidemment à Loulipo, et dans lequel vous pourrez voir des articles sur des jeux intéressants. Voilà.
C'est ça.
Et nous avons ensuite, à ma gauche, Bastien Kerspern, qui est designer d'interaction et qui officie notamment au sein du studio Casus Ludi, dont je fais également partie, et qui traite beaucoup des problématiques de relations entre le numérique et les publics, notamment dans le domaine de la relation entre les institutions publiques et les citoyens. Donc, pour commencer, la question, peut-on jouer de tout, Bastien ? Ah oui. J'ai une petite introduction. Allons-y. Donc, pour commencer, évidemment, peut-on jouer de tout ? Vous le savez peut-être, j'espère que vous le savez, mais les jeux vidéo ont, comme les films ou les livres d'ailleurs, une notion de certification, entre guillemets, ou en tout cas de label qui dit qui peut jouer à quoi. Voilà, donc c'est une première phase, un premier filtre que beaucoup de gens oublient souvent d'ailleurs. Quand il parle des jeux vidéo, d'ailleurs les jeux vidéo dont on va parler là ne sont pas que les jeux vidéo grand public que vous connaissez tous, mais bien entendu des jeux plus obscurs, plus cachés sur la toile, mais qui néanmoins traitent de sujets potentiellement délicats.
D'ailleurs, peut-être petit disclaimer, parce qu'on va parler de choses assez violentes, donc s'il y a des enfants dans l'audience, écartez-les, parce que je pense que...
Oui, la conférence est plutôt PEGI
18,
ou 16, on va dire, voire 18.
Ouais, ta question c'était peut-on jouer de tout ? D'ailleurs, c'est question de table ronde. Et peut-être que la question qu'on peut se poser, en fait, c'est une double question, c'est peut-on jouer de tout ? Donc, est-ce qu'on a la possibilité de jouer de tout ? Et l'autre question qui va de manière inhérente avec, c'est doit-on jouer de tout ? Selon quelle finalité ? Le peut-on jouer de tout, ça fait notamment écho à une façon de voir le jeu qui serait de le penser comme un système interactif qui pourrait être une représentation de la réalité. Nous, on bosse pas mal sur les news games, qui sont des jeux vidéo au final qui parlent de sujets d'actualité et qui essaient de vous permettre de comprendre une actualité au même titre que vous pourriez lire un article de journal ou regarder un reportage télé. Ce sont des jeux vidéo qui vont vous raconter des faits de société, qui vont mettre en perspective une situation. Donc l'avantage du jeu, c'est que vu que c'est un système interactif, un système d'action et de réaction, il y a des règles du jeu, ça apparaît un peu comme une métaphore du réel. Et donc si on se pose la question, peut-on jouer de tout d'un point de vue un peu technique et d'un point de vue un peu conceptuel ? A priori oui, puisque le monde est un système d'interaction, donc on pourrait quasiment tout mettre en jeu. Pour autant, la question c'est, est-ce qu'on doit jouer de tout ? Et pourquoi est-ce qu'on jouerait de tout ? Est-ce que c'est pour du divertissement ? Est-ce que c'est pour sociabiliser ? Est-ce que c'est pour... je sais pas, se conscientiser, etc. Donc ça pose aussi la question de la finalité qui peut y avoir derrière. Donc même si on peut jouer de tout, on n'a peut-être pas forcément intérêt à ce qu'on mette, enfin du moins on vienne mettre tout en jeu.
D'ailleurs à ce sujet, une petite précision, peut-on jouer de tout ? On parle bien de jeux vidéo, mais attention, la notion de jeu vidéo est parfois un peu floue ou très large. On est bien d'accord qu'un jeu vidéo, comme le disait Bastien à l'instant, c'est un système interactif. Les jeux que vous connaissez, ou si on vous parle de jeux vidéo, vous avez par réflexe tendance à penser aux jeux liés au divertissement, donc à l'industrie du divertissement, qui est la majeure partie de l'industrie du jeu vidéo. Mais évidemment, les jeux pour apprendre, par exemple, ne sont pas des jeux divertissants et pour autant sont des jeux vidéo. Donc là aussi, dans les jeux qui vont potentiellement prêter à controverse ou être à même d'aborder des sujets complexes ou compliqués ou problématiques, on n'est pas dans du divertissement forcément. C'est-à-dire que l'expérience qu'on cherche à faire vivre à la personne n'est pas nécessairement du divertissement. On n'est pas là forcément là pour rigoler. Ceci dit, si on va par là, on peut dire, pour faire un dernier point vers cette histoire des jeux vidéo grand public, classique. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là, mais voici un exemple d'artwork tiré d'un jeu vidéo grand public. Alors, déconseillé aux moins de 18 ans, bien entendu. On est là dans tous les clichés que le jeu vidéo porte et traîne derrière lui depuis de nombreuses années, à savoir la violence, le sexisme et les choses comme ça. Donc évidemment, c'est une première question qu'on peut se poser. Est-ce que la violence, et notamment la question de la violence qui est tout le temps imputée aux jeux vidéo, où on le reproche aux jeux vidéo d'être ultra violent, est-ce que c'est une généralité? Est-ce que c'est normal qu'on joue avec ça? Et est-ce qu'on peut s'en sortir et jouer à autre chose?
Ben, moi, tout ce que j'aurais envie de dire sur le sujet, c'est que on va souvent lire des articles, des gens qui vont s'inquiéter que le jeu vidéo peut rendre violent, etc. Sans poser est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Simplement, si on accepte qu'en effet, le jeu vidéo peut avoir une influence négative sur quelqu'un, lui donner de mauvaises images, de mauvais exemples, ça veut dire qu'il faut aussi accepter que le contraire est vrai. Et que du coup, il y a des choses bonnes qui peuvent être tirées du jeu vidéo. On peut apprendre des choses, on peut communiquer des choses, on peut faire comprendre des choses. Et donc, si le jeu vidéo peut rendre violent, il peut rendre peut-être bon et pacifiste aussi, exactement de la même manière. Et donc, c'est là, tout dépend finalement des sujets qu'on va vouloir aborder dans le jeu vidéo et peut-être sortir des sentiers battus de sujets qui sont en effet très souvent guerriers pour aborder tout un tas d'autres thématiques comme le font les autres médiums, le cinéma, la littérature. Je sais pas, moi par exemple d'expérience personnelle, j'ai travaillé sur un jeu, bon alors c'est pas forcément mon exemple, enfin si, parce que ça reste sur la violence, j'ai travaillé sur un jeu sur les violences conjugales, les violences domestiques, donc quelque chose de plus de sensibilisation à ce sujet-là. Donc ça c'est un jeu qui avait été acheté par Libération, et qui est un petit jeu de 5 minutes, très court, mais qui du coup avait ce thème violent caché, et qui avait pour but plutôt de la dénoncer. Je travaille en ce moment sur un jeu sur le parcours d'une migrante syrienne. Donc là encore, c'est pas vraiment un sujet qui va être super marrant. C'est pas un jeu qui s'annonce super fun. Après, je vois pour moi et donc Florent Morin avec qui je travaille dessus, c'est certainement pas une raison de pas le faire. C'est pas parce que c'est pas fun qu'il faut pas le faire comme dans les autres médias. Des fois on va voir des films et on n'en sort pas avec le sourire, quoi, et c'est pas une mauvaise chose non plus.
Je pense que la question de la violence est juste une des parties de la question de peut-on tout jouer. Il n'y a pas que la violence là-dedans, mais au final les jeux vidéo c'est juste le reflet des sociétés qui les construisent. Typiquement, tu prenais l'exemple de Metal Gear Solid 5. Alors certes, ça a l'air d'être un produit assez occidentalisé, bon, ça reste un jeu japonais à la base, et si on va au-delà de cet artwork qui effectivement a un côté un peu putassier, qui promet violence, sexisme, etc. et tout, il y a quand même aussi une partie du jeu qui est fortement antimilitariste. Donc il y a toujours plusieurs niveaux de lecture au sein d'un même jeu, mais ces jeux étant une construction culturelle, c'est le reflet de la culture qui les construit. On y retrouve intégré dans ces jeux, on trouve un certain nombre de croyances, de valeurs, de représentations sociales, et au final ce qui peut être intéressant, c'est de regarder à quel point si on est choqué qu'un jeu aborde un sujet, ou si on estime qu'un jeu casse un tabou, et donc qu'on se pose la question, est-ce qu'on peut vraiment jouer de ça, typiquement le terrorisme, est-ce qu'on se pose ça parce que c'est un tabou qui est commun à la société qui a produit le jeu, ou est-ce que c'est un tabou parce que c'est le jeu qui l'a abordé? Et ça pourrait être intéressant, si on prend encore une fois la question du terrorisme, et je pense notamment à ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, et qu'il y a eu des jeux autour de cette question-là, notamment nous, chez Casus Ludi, on en a produit un qu'au final on n'a pas sorti parce qu'on estimait qu'il n'était pas, pas bon. Simplement, il n'était pas bon.
Là, l'exemple que je vous mets, c'est un jeu qui s'appelle Les Canards voleront toujours plus haut, qui reprend les jeux type Duck Hunt où on va tirer sur des, normalement sur des canards. Et évidemment là ils ont remplacé ça par des journaux. Et à chaque fois que le joueur clique sur un journal, tire dessus, le journal se multiplie. Et ça, le dit, ça en fait deux au lieu d'en faire un pour montrer que la parole sera toujours plus forte que la violence. Effectivement, nous, on avait essayé de proposer un jeu en réaction à la mise en, enfin, aux attentats. Et on a conçu le jeu, on a créé le jeu. Et au final, on l'a fait tester à certaines personnes, notamment des gens qui connaissaient bien et le sujet ou qui étaient plus ou moins proches des attentats. Et quand on traite de ce genre de sujet, on essaye évidemment d'approcher des publics pour la phase de test très variée, pas forcément des gens qui jouent en fait. Là encore, on n'est pas sur le même public. Et effectivement, notre jeu, on l'a tué nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait dans le jeu vidéo. Des fois, on tue des projets. Bon, ben là, c'est ce qu'on a fait, puisqu'on estimait que le message était manifestement pas assez clair, que les gens ne l'entendaient pas comme il fallait et qu'il n'apportait rien à l'effusion d'émotions qu'il y avait déjà à ce moment-là.
Moi, ça me fait penser que toujours suite à ces attentats, il y avait une game jam qui était organisée. Donc, c'est-à-dire, c'est quand des développeurs se regroupent, soit dans un lieu précis, soit ils travaillent tous de chez eux pour créer un jeu sur un thème donné dans un temps imparti. Il y avait eu une game jam sur ce sujet-là, des attentats, où du coup plein de développeurs, je sais pas, il y a eu une dizaine ou une vingtaine de jeux qui ont été faits sur ce sujet-là, sur le sujet des tueries. Et ça a été pas mal critiqué. Il y a eu pas mal de, pas mal de gens qui ont fait remarquer que c'était, c'était peut-être un mois après les attentats, c'était pas une très bonne idée de faire des jeux dessus, c'était mal vu et tout. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que j'ai pas l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir vu énormément de gens s'offusquer, de voir des gens faire des caricatures et des dessins de presse dès le lendemain des attentats, qui sont des dessins de presse très bien, hein, qu'il n'y a pas de. Qui sont pas du mauvais esprit, mais les jeux ne l'étaient pas de mauvais esprit non plus. Donc moi, ça me fait m'interroger, tiens, pourquoi est-ce que pourquoi il y aurait peut-être plus de blocage côté jeux vidéo pour parler de l'actualité, pourquoi les gens seraient plus gênés de voir un jeu qui traite de terrorisme qu'un dessin d'actualité ou un article de journal ou un petit court-métrage, je sais pas.
Est-ce que dans l'audience, il y a des gens qui ont déjà justement vu ou été au contact de jeux qui traitent de l'actualité?
Bravo.
Félicitations.
C'était quoi?
Il y a un micro sans fil. Il y a un micro sans fil. Il faut peut-être l'allumer par contre.
Il faut peut-être l'allumer.
Non, ça marche pas. Bah, crie très fort.
Ah, c'est bon. C'était déjà, je crois, plusieurs jeux de la Mole Industria.
Ouais.
Et puis il y avait un. Je sais plus comment c'est le site, ni même le nom du jeu. C'était un jeu où on incarne les États-Unis, en fait, qui décident de bombarder un pays du Moyen-Orient. Et en gros, il te dit bombarder Bagdad, mais il te donne une carte sans le nom des villes, sans rien du tout, et tu dois
cliquer
à l'endroit où tu veux bombarder. Et du coup, la bombe tombe, et des fois, elle tombe à plusieurs kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres plus loin, et ils te disent quand même « Ah, bah bien joué, je pense qu'ils ont reçu le message. »
Ouais, je sais plus le titre de ça, mais c'était... Ouais, c'est ça, ils avaient mélangé le côté quiz de géographie. Tiens, alors, où se trouve Bagdad? Ah bah tiens, t'as balancé ta bombe à 800 kilomètres de Bagdad, bien joué, bravo les frappes chirurgicales. Et c'était assez réussi, mais c'était pas Mole Industria, je crois, ça.
Il me semble pas que c'était Mole
Industria. C'était J.O.P. Games.
Oui,
c'est un truc dans ce genre-là. Bah, je sais plus. Mais ouais, c'était assez chouette. Ils avaient fait plusieurs trucs comme ça aussi. Oui, fait plusieurs petits jeux. Mais là, c'était le meilleur, celui-ci. Je crois aussi. Ouais.
Du coup, justement, puisqu'on est sur la Mole Industria, c'est un exemple de site internet. Alors, c'est un groupe activiste intitulé comme tel. Qui font des jeux forcément sur des sujets qui les intéressent et sur lesquels ils ont des messages à transmettre. C'est un groupe italien et vous pouvez voir des sujets très variés. Donc là, les derniers sont beaucoup sur la propriété intellectuelle, les droits, mais vous voyez qu'il y a sur l'amendement concernant les armes aux États-Unis, sur la vie des pilotes de drones américains. Un exemple aussi très intéressant de la Mole Industria et qui montre un autre aspect de peut-on jouer de tout, c'est est-ce que on nous laisse jouer de tout. Il s'agit de Phone Story, dont le jeu, comme vous pouvez le voir ici, arbore fièrement son banni de l'App Store, qui est un autre problème, effectivement, c'est peut-on jouer de tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeux sont diffusés sur Internet et de plus en plus sur mobile, puisque les usages l'imposent. Et aujourd'hui, certains jeux, on ne peut pas faire des jeux sur tout. D'ailleurs, je pense que c'est une question que vous allez devoir vous poser sur Enterre-moi mon amour, le jeu sur la série. Et un autre exemple du même type, c'est... Hop là.
Ça marche plus.
Si, si. Hop là. Endgame Syria, qui est un jeu sur la Syrie. Alors, qui a déjà qui date de 2012, donc qui a déjà 4 ans. Et comme vous pouvez le voir, ils ont été obligés de faire pour le mettre sur l'App Store, donc sur la plateforme de diffusion des jeux sur plateforme Apple, de le transformer en Endgame Eurasia. Vous voyez, le visuel a changé, on n'a plus le drapeau syrien. Et ils ont publié par ailleurs un tableau de conversion qui permet de comprendre en jouant à Endgame Eurasia, où ils ont remplacé tous les noms, eh bien, ils ont fait un tableau de conversion qui permet aux gens de voir quel était le propos initial du jeu, à savoir le conflit syrien.
Ouais, il faut savoir que c'est pas un cas isolé, dans le sens où c'est quelque chose de très systématique chez Apple, qui ne, sur leur plateforme, enfin les jeux iPhone, ils ne laisseront jamais rentrer un jeu iPhone qui va parler du réel, du moindre petit sujet qui va pouvoir polariser quelque peu les joueurs ou la population. Il y a absolument rien du tout qui passe, quoi. Donc c'est une politique assez étrange qui est vraiment de considérer le jeu comme un divertissement pur et ras des pâquerettes qui fera jamais réfléchir ou quoi que ce soit. C'est quelque chose d'assez triste. Et ouais, comme tu disais, c'est vrai que nous on va avoir le jeu qui vise pour mobile risque de rencontrer exactement le même problème. À voir comment on va gérer ça, mais...
Est-ce que tu peux décrire juste un peu plus le jeu pour que le public soit conscient de ce que c'est ?
Bah, le jeu en question, c'est, alors il y a eu un article que vous êtes peut-être tombé sur Le Monde, c'était dans le fil WhatsApp de migrants, un article de Sophie Soulier, je crois. J'écorche peut-être son nom. Bon, et là, le jeu, l'idée, ça va être quelque chose d'un peu similaire, c'est-à-dire que c'est un jeu où on joue sur son téléphone et en fait, c'est une messagerie. Et on est Majd, qui est Majd et Nour sont en couple. Nour va essayer de traverser la Méditerranée. Et Majd reste à Homs en Syrie. Et ils vont échanger par messagerie. Et le joueur incarne Majd et va recevoir un peu les nouvelles de Nour au fur et à mesure de son avancée. Va pouvoir des fois lui donner des conseils, lui envoyer des cartes, des documents. Et donc on va essayer d'une part un peu d'aider Nour dans son voyage. Et en fait d'autre part apprendre beaucoup sur... la difficulté de faire ce voyage et à quel point, enfin, et l'horreur que du coup les Syriens traversent quand ils essayent de le faire, quel que soit l'un des multiples chemins possibles. Voilà, en gros.
Et sur le jeu, peut-être tu peux parler aussi préciser de l'équipe constituée par le jeu. Comment vous sourcez en fait ce type de projet ?
Eh bien, bah ça c'est un projet de Florent Morin qui lui a déjà travaillé sur de nombreux news games, donc des jeux sur l'actualité. Donc il y a une équipe de développement, il y a des graphistes, moi je bosse sur l'écriture et on travaille aussi du coup avec notamment Lucie et Dana, qui est une Syrienne qui a fait la traversée, qui vit maintenant en Allemagne, qui va nous servir un petit peu aussi de consultante du coup, et on va aussi essayer de multiplier les sources de toute façon, puisqu'on essaie de traiter pas de la majorité, mais de au moins plusieurs trajets possibles, parce que ça peut pas être par l'Italie, par la Grèce, par les îles grecques, par la Terre, par la Turquie. Donc essayer d'aller à la rencontre de gens qui peuvent nous raconter évidemment les autres chemins, tout ce qui peut se passer en route.
Ce que je trouve intéressant dans l'exemple que tu donnes, c'est que la question de peut-on jouer pour tout, on l'a aussi traité un peu chez Casus Udi, c'est la question de l'empathie en fait, se mettre le temps d'une partie de jeu à la place de quelqu'un d'autre, voire à la place de quelque chose d'autre, parce qu'on n'est pas forcément toujours à jouer une personne humaine ou autre, d'expérimenter avec un système de valeurs différent, avec un mode de pensée différent. Et cette question de peut-on jouer de tout, au final, si on ne se permettait pas de jouer de tout et de faire cet exercice d'empathie, donc peut-être se mettre dans la peau d'un réfugié aujourd'hui, mais de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre qui a des valeurs totalement différentes de nous dans un autre cas, Ça nous permet d'expérimenter voilà, avec cet autre système valeur, cette autre vision du monde, le temps d'une simulation autour d'un sujet, de réfléchir autrement et de questionner peut-être un peu son point de vue. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant avec le jeu vidéo, c'est qu'on peut, entre guillemets, suivre les parties des gens. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire un jeu type The Walking Dead, pour ceux qui connaissent de Telltale, où vous avez un certain nombre de choix à faire, des choix moraux, est-ce que je vais laisser mourir telle personne, est-ce que je vais faire plutôt telle action plutôt qu'une autre, tout cet ensemble de choix-là, sur la masse de joueurs qui jouent, on peut les sourcer, on peut regarder quel type de profil a fait quel type de décision. Et si on suit cette idée d'exercice d'empathie, de je suis quelqu'un qui va jouer à un jeu, qui va jouer une posture qui n'est pas la mienne, le fait d'essayer de jouer de tout permet d'avoir des informations sur qu'est-ce qu'aurait fait cette typologie de personne dans telle situation. Et ça, c'est vachement utile en dehors du contexte purement du jeu. Si demain vous êtes un décideur public, si demain vous êtes une entreprise, d'avoir c'est un peu ces données de simulation pour ajuster vos décisions, pour faire vos plans pour le futur ou autre, de prendre ça en considération et peut-être d'entrevoir des problèmes ou des problématiques qui pourraient se poser avant qu'elles arrivent, juste parce que vous avez fait l'effort de mettre en place cet exercice d'empathie par le jeu.
À travers ton site Loujuipo, Pierre, quels sont les jeux qui t'ont le plus questionné, toi, sur les thématiques qu'ils abordaient ou sur la forme qu'ils pouvaient prendre, notamment dans les interactions ?
Moi, j'avoue que j'ai une préférence pour les choses qui sont très, très simples, qui vont réussir peut-être à passer des messages par ce qui fait le cœur du jeu vidéo, c'est-à-dire l'interaction, donc pas avec des blocs de texte qui nous racontent la vie, quoi. Et où la conclusion viendra tout seul. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, qui m'avait beaucoup touché, ça s'appelle Fit In, F-I-T, plus loin In. Et en fait, on a simplement on a une sorte de moule, d'un côté, et on a des formes de l'autre côté. Donc il y a un moule en forme de carré, et il y a des formes qui dépassent un petit peu, avec des trucs comme ça. Et puis le jeu nous dit, faites rentrer les formes dans le moule, quoi. Alors du coup, on commence à découper un petit peu les formes, on les prend, et hop, on les met dans le moule. Et puis hop, il y a une nouvelle forme qui arrive. Donc pareil, on la découpe, hop, on la fait rentrer dans le moule. Et petit à petit, on va découper les formes, puis elles vont commencer un petit peu à crier. Ben voilà, c'est ça, ouais. Elles vont commencer un peu à crier, elles vont dire « Aïe, qu'est-ce qui se passe ? Non, faites pas ça !» Et du coup, on sait pas trop quoi faire d'autre, donc on continue, parce que tant qu'on les découpe pas, elles rentrent pas dans le moule, donc c'est un petit peu embêtant, quoi. Et le jeu, il peut continuer comme ça pendant des heures, si on veut, hein. Évidemment, on se lasse plus vite que ça. Mais du coup, on va couper ces formes, continuer à les mettre dans le moule, jusqu'au bout d'un moment où on va peut-être tout seul se dire « Mais attends, est-ce que je peux pas couper le moule ?» Et là, on va commencer à essayer de découper le moule et ça marche. Et on va pouvoir agrandir le moule pour que toutes les formes elles puissent passer et que du coup, on n'ait plus besoin de mutiler personne. Et ça, du coup, c'est un jeu qui avait été fait pour une jam, je me rappelle plus de son nom, mais une jam de... comment on dit ? De awareness... de prise de conscience sur la cause transgenre. Et en réaction à, du coup, il y avait une jeune fille trans qui s'était suicidée parce que, du coup, ses parents l'avaient mis dans une école pour la rééduquer, à base aussi de mutilation, tout ça. Et je trouvais que c'était une manière de traiter ce sujet-là, qui est horriblement grave, avec des choses aussi simples que, du coup, deux formes de couleurs et une simple petite mécanique de découper. Et comment finalement, la conclusion nous saute aux yeux à nous tout seul au bout d'un moment, si on passe assez de temps sur le jeu et qu'on comprend tout seul. Enfin, voilà. J'aime bien les choses très simples comme ça. J'espère que j'ai bien expliqué le jeu. Je ne sais pas si tout le monde a compris bien.
Alors, le sujet étant très vaste, et comme on n'a pas tant de temps que ça, si vous avez des questions maintenant, des sujets qui vous intéressent, qui vous interpellent dans le cadre du traitement par le jeu vidéo, eh bien, je vous invite à le faire tout de suite. Il y a une question là-bas. Alors, le micro doit être encore par là. Vous pouviez faire passer le micro.
Pas beaucoup plus. Merci. Donc merci, c'est très intéressant. Alors j'ai plusieurs questions que je vais essayer de mettre en gros en une. Mais moi donc je pense que j'ai sans doute pas été la seule surprise, parce que effectivement, comme vous l'aviez anticipé, je pensais qu'on allait parler de jeux vidéo au sens plus classique. Et en fait, vous parlez de ce que moi je connais comme le serious game. Donc première question, pourquoi vous avez pas appelé ça comme ça ? Deuxième question. Est-ce qu'il n'y a pas, alors je suis philosophe, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement un problème par rapport à ce que vous racontiez sur Apple, à appeler ces choses-là des jeux qui sont, je pense, dans la compréhension commune du mot jeu ou game, entendus comme du divertissement. Et peut-être que si c'était remplacé par une autre formule, genre logiciel d'interaction ou je ne sais pas quoi, peut-être que ça passerait plus facilement. Troisième question reliée, quel est le public en fait de, voilà, est-ce que vous arrivez vraiment à toucher un public avec ce genre d'application?
Alors sur la première question, effectivement c'est un peu notre un souci que l'on rencontre, c'est un problème de sémantique purement. Effectivement, jeux vidéo aujourd'hui, ça regroupe tout un tas de notions qui sont aussi vastes que n'importe quel autre média. Typiquement, si on vous parle de jeux vidéo, vous pensez, si on fait la comparaison avec un autre média, on pourrait imaginer que jeux vidéo, ça veut dire écriture. Et avec de l'écriture, on peut tout faire. On peut faire un roman, on peut faire un pamphlet, on peut faire une publicité sur un flyer, on peut faire une note pour dire les courses qu'on doit faire dans la journée. Tout ça, c'est juste l'écriture et le média et le support de tous ces éléments-là. Et le jeu vidéo, c'est à peu près aussi vaste. Et malheureusement, et sans doute parce que l'industrie du jeu vidéo est l'élément majeur qui draine ce média-là, on se retrouve avec uniquement la définition de divertissement. On ne rattache que le divertissement à la notion de jeu vidéo. Quant au titre de la conférence, on me dit bien, peut-on jouer de tout? Et on parle juste du jeu en général, d'ailleurs. On ne parle pas forcément du jeu vidéo. On peut imaginer, on peut faire référence également au jeu, par exemple, de Brenda Breathwaite, qui était sur la déportation et qui a fait un jeu papier, un jeu de plateau, en fait, qui s'appelait le Trains, où on joue à essayer de gérer des trains. Avant de s'apercevoir au fur et à mesure du jeu qu'en fait, on est en train de gérer les trains qui emmènent les Juifs dans les camps de concentration. Donc on n'est pas nécessairement sur le jeu vidéo, et effectivement il y a, vous faites bien de le pointer, un vrai problème de sémantique, c'est à savoir que le jeu est rattaché uniquement à sa part de divertissement, alors qu'évidemment on a un champ d'action beaucoup plus large. Quant à la question des publics, peut-être Pierre tu veux répondre?
Ouais je peux, mais même avant ça sur la question de serious game, donc là du coup après ça c'est personnel, c'est que moi par exemple c'est un terme que j'aime pas du tout. Dans le sens où du coup bah il se sépare vraiment en deux, et je trouve ça vexant pour du coup des gens qui vont faire des jeux bah peut-être à vocation du coup un peu sérieuse et tout, parce que ça sous-entend que leurs jeux sont chiants un petit peu, et c'est vexant pour les gens qui vont faire bah peut-être des jeux grand public, enfin je sais pas, les gens qui font The Witcher 3 ou un gros jeu qui s'est vendu par palette. C'est-à-dire, du coup je trouve ça vexant de leur dire aussi bah votre jeu à vous il est pas sérieux, genre vous avez bossé, il y a 100 personnes qui ont bossé dessus, vous avez tout donné pour créer des émotions, pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe avec le public. Donc même si les thématiques sont pas sérieuses, il y a quelque chose de très sérieux dans les choses que le jeu veut te faire ressentir. Et du coup, je trouve ça aussi vexant pour l'autre catégorie de jeu d'utiliser ce terme-là. Donc c'est vrai que moi aussi, je préfère tout englober dans un même sac, et après, tout se place peut-être sur un curseur, j'imagine.
Alors, de toute façon, les cases, c'est toujours très problématique. Ce que Florent Morin utilise comme terme pour parler des jeux, notamment le jeu qu'il est en train de faire en termes de mon amour, mais aussi tous ces jeux qui vont parler de l'intimité ou de la vie des gens en général, il appelle ça des jeux du réel. Donc, c'est un exemple de terme un peu plus soft et plus adapté, je pense, effectivement.
Mais moi, j'aime bien aussi. Ouais.
Ça ne peut pas recouvrir tout. C'est-à-dire qu'effectivement, Fit In va avoir du mal à rentrer dans la notion de jeu du réel, puisqu'on est sur une allégorie. Donc, c'est un peu difficile d'en faire un jeu du réel. Il y avait une autre question en bas, il me semble.
Il y en a où après ? Oui, bonjour et merci. Vous m'entendez ?
Ok. Parlez bien près du micro.
D'accord. Alors, effectivement, c'était pour venir compléter, parce que j'ai oublié la moitié de ma question, étant donné que je suis un peu timide. Du coup, je vais me contenter de compléter cette distinction entre... le côté peu pertinent de la distinction entre serious game et jeu, tout simplement, autour du fait, moi, ce que je trouve au contraire très sérieux, c'est cette question de l'amusement et du fun, et de ce moment où c'est un peu gênant que ce soit fun. Notamment, il y a un jeu qui maintenant est assez connu, qui était à l'origine un tout petit jeu indépendant, qui s'appelle Papers, Please. Voilà le principe du jeu. C'est tout simplement de contrôler une frontière, la frontière d'un petit pays, de quelque chose comme l'ex-URSS, et voilà, donc de contrôler les flux migratoires à partir de critères relativement arbitraires, en même temps qu'il y a aussi un cahier des charges. Et donc nous, on est là, voilà, à essayer de, en fonction de comment les gens vont argumenter leur passage, en fonction d'événements aléatoires qui vont être générés par le logiciel, etc. Comment on va choisir de les laisser passer ou non, selon quels critères, et comment en fait on va se retrouver dans une routine de contrôleur de frontières d'un régime totalitaire, etc. Et comment finalement ça va être très marrant et on va prendre beaucoup de plaisir à le faire. Et cette question-là est, à mon sens, une question éminemment sérieuse, qui est celle du divertissement. Est-ce que c'est drôle d'être fasciste? Est-ce que c'est drôle d'être nazi? Enfin voilà, il y a eu, je pense, beaucoup de littérature maintenant sur qu'est-ce que c'est que de faire partie des jeunesses hitlériennes dans les années 30. Et à l'inverse, qu'est-ce qui se passe dans le fun, donc les jeux dits de divertissement, qui prennent des tournures vraiment extrêmement sérieuses, extrêmement graves. Vous avez cité The Witcher 3, je pense que c'est un excellent exemple. C'est quand même un jeu qui est issu d'une série de livres d'heroic fantasy, donc on est vraiment dans l'univers du fantastique, de l'onirique. Pour autant, il y a des choix, enfin c'est une série de jeux qui est connue pour ses choix cruciaux, ces choix terribles où il n'y a jamais de mauvais choix, où en fait on va vouloir faire voilà juste un petit truc en passant comme ça pour avoir un meilleur équipement, et puis finalement dans 4 heures de jeu plus tard, on se rend compte que ça a des conséquences désastreuses sur une partie de la population, sur une ville, etc. Et donc tout ça voilà nous prend au trip. C'était juste une petite remarque.
En effet, même les jeux du commerce peuvent souvent faire réfléchir. Tiens, Pierre, tu peux amener le micro par là.
Mais du coup, j'en profite juste parce que ça me permet de répondre aussi à la partie de la question qu'on avait oubliée sur le public. Paper Please, c'est justement un très bon exemple d'un petit jeu qui a été fait avec un sujet assez lourd, même si caché derrière un pays fictif, peut-être. Et qui a eu un très très grand succès auprès du public joueur qui joue d'habitude à d'autres jeux pas considérés comme sérieux, tout ça. Et donc pour répondre à la question, moi par exemple personnellement, et je sais pas vous aussi j'imagine, quand on fait des jeux on essaye de viser le plus gros large public possible, et après on croise les doigts de toute façon pour savoir qui prendra ce qu'on fait quoi.
Sur la question du public, quelque chose d'intéressant, c'est qu'en général sur la question peut-on jouer de tout, les gens qui vont être choqués ou qui vont être marqués par ce genre de jeu sont plus souvent les spectateurs que les acteurs. En fait, ce sont pas forcément les gens qui vont être actifs et qui vont jouer dans le jeu, c'est plutôt les gens qui vont regarder les parties et qui vont du coup pas forcément comprendre pourquoi le joueur a pu faire tel choix ou a pu entreprendre telle action, voire qui n'ont vu que le jeu par une petite lorgnette de 5 minutes de gameplay ou autre, qui vont être interpellés par ça et qui vont en déduire toute une théorie et tout le reste. Et donc vraiment selon la posture du public, et indépendamment qu'on soit joueur ou pas joueur, ne serait-ce que le fait qu'on soit actif dans le jeu ou qu'on soit passif, conditionne aussi pas mal l'expérience, je pense, qu'on peut avoir justement ces questions de moralité, ces questions de responsabilité, etc.
Oui, et pour ceux qui ne... Si vous voulez essayer des jeux du commerce qui traitent de sujets sérieux de manière un peu intelligente, il y a un jeu qui avait été marketé comme un jeu de guerre classique qui s'appelle Spec Ops The Line, qui avait été vendu exactement comme... Et c'était volontaire de la part du studio comme un jeu de guerre type Call of Duty, America's Army ou tout ce qu'on veut, et qui en fait mettait le joueur dans des positions très discutables, notamment de tuer des civils, de gérer une foule, une émeute ou des choses comme ça, et de s'en rendre compte au fur et à mesure du scénario, d'ailleurs, que son personnage est un peu fou, je vous spoil un peu, mais voilà, et qui arrivait donc à travers un jeu qui était très classique dans sa forme, ou qui le laissait croire en tout cas, d'arriver à traiter des sujets un peu complexes. Et concernant Papers, Please, moi ce que je trouve très étonnant, c'est que le créateur de Papers, Please, par contre, lui se défend d'avoir voulu faire quoi que ce soit de sérieux dans son jeu, alors que tout le monde y a vu une allégorie du totalitarisme et d'une volonté de traiter ce sujet-là.
Je rejoins un peu ce que vous disiez, les différentes questions qui se sont posées, notamment à propos du choix, le fait, vous avez dit au tout début que les jeux vidéo peuvent nous apporter des bonnes choses, nous faire réfléchir, et une personne parlait justement de choix. Je voulais savoir si justement, à partir de jeux vidéo, on ne pourrait pas inculquer une morale à certaines personnes ou une certaine forme d'éthique.
Alors, il y a une espèce d'ambiguïté dans le jeu vidéo. D'une part, le jeu vidéo se défend depuis des années de rendre violent. Donc on dit le jeu vidéo, non, les gens qui jouent aux vidéos ne deviennent pas violents. Et à côté de ça, on essaye de dire en même temps, regardez, avec les jeux vidéo, on peut rendre les gens plus intelligents, plus sensibles, plus gentils. Donc si les jeux vidéo ne rendent pas violents alors qu'ils sont violents et que on essaye de... Enfin voilà, il y a une espèce d'ambiguïté à ce niveau-là. Ce qui est clair, c'est que d'une part, on a remarqué que les gens ou les joueurs font très bien la distinction entre fiction et réalité. Mais par contre, le jeu a une réelle capacité à faire réfléchir de par son implication empathique. Peut-être que tu veux ajouter sur ce sujet-là, d'ailleurs.
Ouais, et d'ailleurs, je reprenais un exemple qu'on a développé ensemble, qui était un jeu qui s'appelle Ortoland, alors qui est un petit jeu, hein, ça dure à peu près 5 minutes, et il vous met dans la peau du Bruant Ortoland, qui est un petit oiseau qui se fait braconner tous les ans dans les Landes, et là, en l'occurrence, vous jouez même pas un humain, vous jouez un oiseau. Et là, l'exercice d'empathie, enfin, du moins, l'idée de se mettre à la place de l'oiseau, c'est de voir tout le chemin terrible, au final, et tragique que va avoir l'oiseau, parce qu'à chaque fois que vous avez un game over dans le jeu, vous pensez que c'est terminé, mais en fait, ça vous emmène vers un autre tableau où ça va être encore pire. Vous avez votre oiseau qui se fait capturer dans une cage, game over, vous vous dites, ouais, super, je vais pouvoir recommencer, éviter les cages. Bah non, il va finir à se faire engraisser. Super, vous êtes fait engraisser, vous dites c'est game over parce que j'ai mangé toutes les graines alors que je vais pas manger. Non, c'est pas terminé, vous allez vous faire noyer dans l'Armagnac. Voilà, que des vraies étapes de préparation de l'ortolan à la modelandaise, voilà, qui est un plat a priori délicieux mais tout à fait délectueux. Et qui nous amène aussi à, entre guillemets, à expérimenter d'autres choses et pas forcément dans la posture d'humain ou autre. Et sur la question la violence ou autre, il faut voir aussi le jeu un peu comme un truc de catharsis, c'est-à-dire que peut-être que je vais me défouler dans le jeu, peut-être que je vais expérimenter des choses dans le jeu, peut-être que je vais jouer certains comportements dans le jeu et je ne le ferai pas dans la réalité parce qu'il y a un côté aussi bac à sable dans le jeu qui fait que je me serais rendu compte potentiellement des conséquences de mes actes ou des émotions liées à mes actes et qui m'ont suffisamment mis mal à l'aise ou à l'inverse, qui m'ont suffisamment mis... en confiance pour que je le réplique ou je le réplique pas dans ce qu'on appelle entre guillemets le réel.
Et toujours sur ce sujet-là, de transmettre des choses à travers le jeu, y a une association américaine qui s'appelle Game for Change en fait, qui a pour vocation de publier, faire parler de, pousser à la création de tous les jeux qui vont justement avoir un objectif de changement social. Donc effectivement, il y a des gens qui travaillent pour essayer de changer le monde à travers le jeu vidéo. Ce qui m'amène justement, bah, pour rester dans cette question-là, Pierre, quand toi tu fais des jeux, quand tu fais l'une d'elles, quand tu travailles sur Enterre-moi mon amour, quel est votre objectif derrière? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Est-ce que c'est exactement la même chose que quand un journaliste écrit un article ou un romancier fait un roman sur un sujet? Ou voilà, quel est votre...
Bah, je pense que c'est pile poil entre les deux là pour le coup. Pour ce dernier exemple d'Emma, c'est vraiment pile poil entre du coup du journalisme et de la fiction, puisque ça demande énormément de documentation et puis au bout d'un moment il va falloir romancer un petit peu pour que ça puisse rentrer dans certains codes du jeu vidéo qu'on va fixer. Après, l'objectif, bon, c'est un peu pour répondre aussi à la question du coup, comme je suis persuadé que c'est pas possible qu'un jeu vidéo transforme quelqu'un en serial killer, je suis persuadé qu'un jeu vidéo va jamais changer le code moral de quelqu'un et inculquer une morale quelle qu'elle soit. C'est plus finalement des expériences, c'est juste une expérience en plus, c'est du grain à moudre en fait, tout simplement, donc c'est quelque chose qu'on apporte. Donc oui, peut-être l'idée de ce jeu-là, bah, c'est, je pense qu'il y a une réalité dont les gens n'ont pas particulièrement conscience, et c'est simplement bah, de la montrer, quoi, sans même se positionner sur des débats réfugiés, les loger, pas les loger, c'est même pas vraiment la question, quoi, pour le coup. Là, c'est un peu une posture documentaire, pour le coup, ouais.
D'autres questions là-bas?
Ah, là. Vous m'entendez?
Ouais. Oui.
Du coup, je voulais juste rebondir sur une espèce de dichotomie qu'il y a entre le jeu divertissant et le jeu sérieux. D'une manière générale, je pense que pour rebondir sur un des thèmes qui avait été évoqué tout à l'heure par vous, à droite, à gauche du coup, la Game Jam qui a été faite en réaction aux attentats, qui a été mal perçue, je pense que c'est parce que du coup tout simplement le jeu vidéo est de manière générale peu crédibilisé en termes de quelque chose de sérieux en fait. On a tendance à réduire ça à du divertissement pur et dur, et tant que ça sera ça, le milieu ne sera pas pris au sérieux quand il fait des choses au sérieux, d'une manière générale, malheureusement. Et donc du coup je pense que l'idée, plutôt que de segmenter le truc en divertissement pur et dur et serious game, c'est dans les jeux divertissement qui devraient apporter plus de maturité pour pouvoir faire évoluer le truc. Genre The Witcher 3 par exemple a un travail d'écriture qui est juste génial. Il y a des jeux qui sont dans le commerce qui ont des thèmes très très graves, comme il y a par exemple un couple de créateurs qui ont fait un jeu sur le cancer parce qu'ils ont perdu leur enfant, ils ont fait un jeu dessus. C'est un truc avec Dragon, je crois, je sais plus exactement ce que c'est. Il y a un jeu d'Ubisoft qui est un énorme studio qui vend des choses très commerciales de base, qui ont fait aussi un jeu sur la Première Guerre mondiale qui s'appelle Soldat Inconnu, qui est très très sympa. Donc c'est par ces jeux là qui sont dans le commerce plutôt que des jeux qui sont donc des news game ou des serious games qui sont pas accessibles au grand public. C'est par ce travail là de jeux commerciaux en fait, cette évolution de jeux commerciaux où je pense qu'on pourrait arriver à un traitement plus sérieux du média, tout simplement.
Bah oui, en fait, finalement, ce qu'il faut, c'est pas genre que les jeux deviennent plus sérieux, c'est simplement qu'il y ait plus de jeux pour adultes, en fait, simplement, des jeux plus adultes, plus matures, qui traitent de sujets qui intéressent des adultes.
Et pas que
des enfants ou des ados.
Que les créateurs de jeux visent un autre public
oui,
et que le public prenne les jeux plus au sérieux.
C'est ça. Et comme du coup, finalement, l'âge des joueurs, de toute façon, vieillit de plus en plus, on est de plus en plus de vieux joueurs, plus en plus de joueurs de 30, 40, 50 ans, bah, au bout d'un moment, ça va se faire tout seul, hein, je suis sûr. Hein.
Alors, pour information, pour le public, Z Dragon Cancer, j'ai remis l'image là dont parlait monsieur, c'est un jeu qui a été fait par deux concepteurs de jeux américains suite à l'expérience de l'un des deux qui a perdu son fils. Donc à l'époque où il a commencé le jeu, son fils était atteint d'une forme de cancer assez rare et il avait peu d'espérance de vie. Et effectivement, il est mort 2 ans plus tard, à l'âge de 6 ans. Et donc, ils ont sorti le jeu à peu près 2 ans après la mort de l'enfant en question. Donc c'est un jeu... Alors, votre distinction sur les jeux commerciaux... me gêne un peu là en l'occurrence parce que c'est vraiment pas un jeu commercial. Il s'est retrouvé commercialisé parce que il y a eu un buzz autour de cette histoire. Enfin voilà, c'est les médias s'en sont emparés et donc le jeu a été connu et a pu avoir une vie commerciale effectivement assez importante. Mais on peut pas le comparer à Witcher 3 en disant ce sont des jeux commerciaux et les jeux commerciaux deviennent sérieux. C'est plutôt le cas d'un jeu justement sérieux, sérieux au sens qui traite de l'intime en l'occurrence et de la mort d'un enfant. Qui vient sur l'avant de la scène grâce à une exposition médiatique particulière.
Il faut l'allumer en fait. Ça met un certain temps après. Ça va venir.
C'est bon. Voilà. Donc maintenant j'avais plus une remarque, question à faire par rapport à tout ce qui est Tycoon entre autres, à tout ce qui est Tycoon, tous les jeux de mania de divers sujets, enfin de
parle bien sur le devant du micro en fait.
De parcs d'attractions, de choses de genre là, qui nous poussent toujours dans le rôle du méchant, dans ce rôle de gros salaud où bah, quand j'ai un parc d'attractions, bah, je mets des frites très salées et ensuite des trucs de soda juste à côté pour vous pousser à acheter. Ou bah, si je gère une entreprise, bah, je vais gérer mes salariés de manière tellement cruelle, mais efficiente financièrement, pour que voilà. Et ça, c'est intéressant d'avoir des jeux qui, dans une démarche tout à fait commerciale, arrivent à côté de ça. Et divertissante, enfin, elle arrive à nous mettre dans des rôles où on est en train de dire, mais je vais être la pire ignominie, la pire des putes pour avoir mon gros score. Bon, ce que certains font pour avoir beaucoup de thunes, un gros salaire et tout ça, mais nous, la mécanique de scoring qui va derrière, ça fait qu'on peut jouer des gros salauds, comprendre leur démarche. Et moi, quand on parlait de jeux sur le terrorisme, je me disais, mais un jeu qui met dans le rôle d'un terroriste, enfin, ou quelqu'un qui part sur un parcours un peu déviant, en train de se dire mais est-ce que je vais aller vers là, pourquoi je fais ça et tout ça, c'est vachement intéressant. Enfin, c'est ce que le cinéma a réussi à faire, c'est ce que la BD a réussi à faire aussi en partant de ciné de démarches de pur divertissement, et c'est ce que le jeu vidéo est en train de faire. Enfin, après,
alors il y a quand même une distinction sur le jeu vidéo qui est le côté acteur du joueur qui vient quand même transformer pas mal l'expérience par rapport à un film qui exposerait la vie d'un bad guy. Le vrai que le manque de... enfin, l'exposition d'un film, d'une bande dessinée, d'un écrit permet le recul entre le spectateur et le sujet. C'est pas le cas dans le jeu, c'est pour ça que le jeu doit forcément être traité différemment et que se pose la question d'ailleurs du moment où on peut traiter d'un sujet ou pas.
Sur l'effet too soon.
Ouais.
Ouais, ça c'est un vrai problème. On l'a eu nous de plein fouet avec peut-être aussi Charlie Hebdo, mais c'est à quel moment on s'inscrit dans la bonne temporalité pour sortir le jeu. Un autre jeu sur lequel on a bossé, c'était sur le débat de Notre-Dame-des-Landes, de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. On a mis beaucoup de temps à le sortir. Heureusement, on l'a sorti 2 semaines avant la consultation publique. Bon, là on était dans le bon timing, mais des fois c'est trop tôt ou c'est trop tard, et typiquement on peut se demander, il faudrait faire un espèce d'exercice de rétrospection, de regarder quels sujets aujourd'hui ne peuvent pas être abordés par le jeu parce que c'est encore un peu trop chaud. Alors typiquement les attentats, c'est un peu trop chaud pour être encore abordé, mais on a eu exactement le même problème avec le cinéma, et notamment le cinéma d'après la Seconde Guerre mondiale, où il y a une longue période où le cinéma n'a pas abordé la Seconde Guerre mondiale, ou alors l'a abordé mais d'un point de vue très sérieux, très héroïque, très dans l'idée de valoriser la résistance, de valoriser les gens, le sacrifice des gens, etc. et tout. Et il a fallu une espèce de période de deuil avant qu'on ait soit des choses qui soient plus de l'ordre du comique, soit de l'ordre plus de la critique du rôle de certains. Et probablement parce que le jeu vidéo, en l'occurrence, est pas si vieux que ça, peut-être qu'il souffre de plein fouet de l'effet too soon et c'est trop tôt pour traiter certains sujets parce que il est aussi jeune que les controverses qui pourraient être amenées à tacler. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur notamment le sujet du terrorisme et tout, encore une fois, c'est toujours une question de culture, parce que si on prend le jeu vidéo comme une modalité d'activation, c'est-à-dire de faire passer des gens d'un état un peu passif à un état actif, Arma, qui est un jeu développé par l'US Army, le fait. Donc c'est un jeu notamment pour stimuler l'enrôlement dans les corps de l'US Army, qui peut être plus ou moins critiqué, mais bon, qui est exposé clairement et qui fait partie du coup la culture parfois un peu militariste qu'on trouve aux États-Unis. Et si on met ça en perspective, Daesh fait exactement la même chose, où Daesh a créé des modes de GTA où vous êtes un terroriste qui va tuer tout le monde dans la rue. Et ils s'en servent aussi comme mode de recrutement et aussi comme mode, entre guillemets, de casting pour aller alimenter leur rang en Syrie, en Libye, ou voire même en Tunisie maintenant. Donc c'est toujours est-il que le jeu peut être utilisé à des fins qu'on peut estimer immoraux, mais qui vont aussi pas mal dépendre de la culture, encore une fois, du point de vue de laquelle on la juge.
Du point de vue, oui. D'ailleurs, sur les thématiques des attentats, un des jeux qui a posé problème récemment s'appelle 8:46. C'est l'heure à laquelle le premier avion a frappé les deux tours du World Trade Center. Et on est sur une nouvelle technologie, on est sur la réalité virtuelle. C'est un jeu donc en VR, on a le casque, on est immergé dedans. C'est un jeu qui a été fait par des étudiants d'une école française, l'Engmin. Et effectivement, ce jeu a soulevé beaucoup de controverses, justement, parce que il nous met dans la peau de quelqu'un qui va être d'un trader dans le World Trade Center, qui va être dans son bureau et qui ne va avoir d'autre choix que de mourir au bout de quelques minutes, soit en mourant parce que l'immeuble s'écroule, soit en sautant par la fenêtre parce que c'est la seule solution. Et donc effectivement, le jeu, et notamment par son aspect expérientiel très fort, très immersif, parce qu'on était en réalité virtuelle, a soulevé pas mal de questions.
Excusez-moi, du coup, j'avais une question. Vous avez plus ou moins commencé à répondre. C'était l'idéologie derrière les jeux vidéo, qui est une question qui se pose aussi bien quand on écrit de la science sociale ou quand on est purement écrivain de fiction. Et je veux savoir, vous, en tant que... Parce que ça a été abordé tout à l'heure, en quelque sorte, par des jeux très capitalistes, en fait, où on est dans le profit, qui transposait la réalité sur des situations terribles. Je veux savoir, vous, en tant qu'auteur de jeu et en tant que joueur, s'il y a des moments où vous êtes rencontrés, à des moments où vous avez dit, mais en fait, ce jeu porte des valeurs que je trouve dégueulasses, parce que autant on peut créer des jeux comme ça qui permettent d'avoir un vrai regard réflexif sur les événements qu'on vit, avoir un regard critique, autant des idéologies terribles peuvent être transmises par rapport aux jeux, racistes, xénophobes, etc. Donc ça, votre avis là-dessus.
Tu parles de jeux auxquels on a pu jouer.
En tant que créateur de jeux, comment vous positionnez par rapport aux valeurs que vous portez dans vos jeux et aux réflexions que vous menez,
en
tant que joueur ?
On va avoir un souci pour répondre. En fait, on fait partie d'une catégorie de concepteurs de jeux qui ne concevons que des jeux qui nous intéressent ou sur lesquels on veut parler. Donc, effectivement, il est possible d'imaginer que les gens qui travaillent sur des Gears of War ou des Call of Duty ou autres... et qui ne sont pas forcément dans la mentalité militariste, ne le vivent pas forcément très bien, effectivement.
Il y avait eu le cas sur Skyline, qui est du coup une sorte de SimCity, en fait, où on construit des villes, où il y a des journalistes qui ont fait une expérimentation avec Skyline. Ils ont essayé de tordre le jeu pour faire en sorte que la façon de gagner à ce jeu serait de faire de la décroissance et non pas de la croissance. Tous les SimCity sont basés sur le fait que vous construisez une ville et vous étendez, vous avez toujours une croissance, plus d'argent, plus de personnes, plus d'équipements. Et ils ont essayé de faire en sorte de voir est-ce que le jeu était capable d'accepter qu'une condition de victoire serait de faire dégrossir sa ville ou alors de la faire stagner. Et en fait, le jeu embarquait tellement de valeurs justement liées à l'idée de la croissance capitaliste, tout ce qu'on veut, néolibérale, etc., etc., a fait que justement les règles du jeu faisaient que c'était impossible de gagner avec de la décroissance. Et donc typiquement on avait juste un jeu totalement porteur d'idéologie. Et c'est vrai que Skyline, enfin en l'occurrence ceux qui avaient conçu Skyline, avaient réagi après derrière à cet article un peu en mode mea culpa, on s'en était pas rendu compte parce qu'on voulait juste faire un jeu qui était basé sur un archétype de jeu qui était un jeu où on construit sa ville. On s'était pas dit que oui, potentiellement fallait pas développer les villes.
Une autre question quelque part? Ah oui, d'accord. Parlez bien près du micro.
Oui, au départ, vous évoquiez des jeux obscurs, et je trouve qu'en fait, les jeux qui ont été évoqués sont des jeux avec. Il y a quelque chose de positif derrière. On essaye de faire passer un message, etc. Et moi, en jeu obscur, je pense à Atred, qui est un jeu qui est sorti il y a un an à peu près.
Comment t'as dit, pardon?
Atred.
Atred. Atred.
Ouais. Qui veut dire haine, tout simplement, et qui est un jeu où le seul but est de tuer des citoyens innocents dans un univers très sombre, et le seul moyen de regagner de la vie, par exemple, c'est de les achever. Donc ça, c'est un jeu, en plus, le studio qui a fait ça porte à controverse au niveau des idées politiques. Donc ça, c'est autre chose. Mais...
Ah non, c'est pas autre chose. C'est justement le sujet.
Ouais, mais ouais, avec un jeu comme ça, on se demande, en fait, quel message il y a réellement derrière. En fait, parce que c'est vrai que bah, je l'ai fait, le jeu, hein, mais le but, c'est d'aller faire péter la centrale nucléaire pour que la ville, il n'y ait plus rien, quoi. Donc, par rapport à tous les jeux que vous avez évoqués, bah, qu'est-ce qu'on fait de cela, en fait, cette minorité de jeux très, très violents et très hardcore, en fait, quoi.
La question, c'est qu'est-ce que toi, tu as ressenti en y jouant, et pourquoi est-ce que tu l'as fait? Pourquoi est-ce que tu n'as pas été, par exemple, rebuté par l'expérience que te proposait le jeu, notamment idéologique?
C'est plus personnel après, mais moi je vois ce jeu-là comme un défouloir qui empêche de faire ça dans la réalité. Hein, ça peut.
Ouais, c'est ce que disait Benoît aussi.
L'effet catharsis.
Le catharsis.
On peut avoir des envies comme celle-ci, quoi, mais c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Mais le faire dans un jeu vidéo, pourquoi pas? Après, quand je vois les articles du Monde qui disent oui, les gens qui jouent à ça sont des gros misanthropes qui veulent tuer tout le monde, voilà, ça me fait doucement rire. D'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai connu le jeu. Je les remercie.
Ouais, c'est vrai. C'est surtout comme ça qu'ils se fait connaître.
Ils font de la pub ils font de la pub à des jeux qu'ils critiquent, quoi. Mais après, il y a sûrement des gens qui ont joué à ce jeu qui peut être potentiellement dangereux, c'est sûr. Mais je pense que avec un recul, il faut avoir un recul sur ce jeu. On peut y jouer parce que c'est vrai que là, c'est vraiment du divertissement. Il n'y a pas de message particulier à faire passer. C'est vraiment, on s'amuse à tuer tout le monde, quoi.
Un très bon exemple de ce type, c'est la série des jeux Postal, que peut-être certains connaissent déjà, qui vont effectivement dans l'extrémité de tout ce qui va être comportement violent, gratuit, etc. Et qui sont effectivement, ils en sont rendus à au moins 3 opus, donc c'est que ça fonctionne. Et on peut se poser la question de pourquoi et pourquoi les gens y jouent.
Pourquoi les gens y jouent, je crois que du coup on en a déjà parlé, c'est l'effet catharsis. En grosse partie, enfin, c'est agréable de se défouler aussi dans ce genre de truc. Moi, je sais pas, quand j'étais gamin, je jouais que à des jeux de baston, j'adorais ça. Mais c'est vrai que moi, ce que je trouvais le plus intéressant avec cette histoire, c'est que finalement, le jeu en plus en soi, il a pas grand chose de plus horrible que des tas d'autres jeux dans le commerce, quoi. Un petit peu plus, parce que ils ont logé plus d'idéologie dedans. Ouais. Ils ont été un peu frangeux. On n'aime pas les Arabes, on n'aime pas les homosexuels, on n'aime pas les femmes. Ils sont un peu fait rentrer dedans. Mais finalement, moi, ce que je déplore finalement pas du tout l'existence du jeu. Ce qui est vrai que c'est plus déplorable dans le côté où du coup c'était une com qui était basée là-dessus de leur côté. Et après, qui a été aussi repris, comme tu dis, par énormément de journalistes qui étaient les premiers à vouloir taper sur ce jeu-là aussi. Et chose dont, du coup, il y a quelques minutes, on se plaignait de la même chose, que les gens les plus enclins à taper sur un jeu, c'est plus les spectateurs du jeu que les gens qui vont y jouer. Et c'est exactement la même chose qui s'est passée dans l'autre sens pour celui-là, enfin, avec des gens qui le critiquaient d'être trop violent. Je sais pas où allait vraiment ma réflexion, mais ce jeu-là les problèmes auxquels des jeux sur des sujets plus sérieux font face, c'est exactement ce qui a fait que celui-ci a marché au final. Ils ont joué sur la même chose, mais sauf que là, du coup, ça a fait de la bonne promo plutôt que de la critique, quoi. Je trouvais ça intéressant. Je suis un peu perdu, pardon.
Je vais peut-être l'allumer.
Oui, c'est allumé. Ma question est par rapport aux limites que vous posez sur le jeu vidéo. Tout à l'heure, vous parliez soit des limites d'éditeur, c'est pas le bon éditeur, c'est Apple, c'est pas le bon contexte, c'est pas le bon moment. Vous parliez de l'effet too soon, etc. Et au fur et à mesure là, des discussions, ça me fait penser à une anecdote au jeu vidéo de tir à la première personne. Où pour les militaires, une réflexion qui a été faite, c'était ça pourrait être un très bon jeu de simulation.
Et, d'entraînement, tu veux dire, hein? D'entraînement.
Oui, d'entraînement.
Ouais, c'est le cas.
L'anecdote va un peu plus loin, puisque ils ont essayé, et les gens, les militaires qui jouaient, qui étaient des militaires avec une réelle expérience,
Donc ils savaient c'était quoi d'aller sur le terrain, ils voient un milieu désertique ou Bagdad, bah, ils savent ce que c'est Bagdad, ils savent c'est quoi un terroriste, ils savent c'est quoi une arme. Et quand ils perdent, c'est pas « Ah zut, j'ai perdu, je rejoue ». C'est des gens qui en sortaient encore plus traumatisés. Et donc des gens à qui, je veux dire, ils ne pouvaient pas jouer à ce jeu, ils ne pouvaient pas s'entraîner avec ça parce que si au départ ils sont mauvais, bah, ils vont avoir des dommages psychologiques. Et donc finalement, je veux dire, la limite avec ce jeu, je veux dire, on va pas dire que ces jeux-là étaient mauvais et vont détruire la psychologie des gens. C'était juste une question vraiment de personnes et de curseurs assez fins, parce que là, je veux dire, on était tombé sur un cas où vraiment le jeu n'est pas adapté. Et donc finalement, ma question, c'est est-ce que finalement toutes ces questions de limite sont pas des questions à des réponses beaucoup plus complexes que simplement c'est pas le bon timing ou c'est pas les bonnes personnes parce qu'elles ont pas le bon âge, etc. Et qu'il y a vraiment des... Bah, peut-être que tout est peut-être possible, mais avec une sélection plus fine.
Alors ce qui est sûr, c'est que les concepteurs des jeux réfléchissent à ça. J'ai deux exemples. Le premier, c'est Depression Quest, qui a été fait par une game designer américaine qui s'appelle Zoe Quinn. Et vous pouvez voir sur l'écran d'accueil de Depression Quest, donc qui est un jeu qui va mettre en scène, on joue quelqu'un qui est dépressif, et elle commence par un disclaimer précisant que si vous êtes dépressif, ne jouez pas à ce jeu. Si vous êtes dépressif, si vous avez vécu cette situation réellement, bah, rendez-vous plutôt sur un site qui va essayer de vous orienter vers des circuits pour sortir de votre dépression, et que le jeu lui-même, effectivement, si on a déjà vécu cette expérience, va être d'autant plus traumatisant. Un deuxième exemple sur le même sujet et très récent, c'est Normal Lost Phone, qui est un jeu qui est en cours de finalisation. Il y a un premier prototype qui a été mis en ligne, qui est un jeu qui traite notamment de l'homophobie. Et dans la version officielle qui va sortir, les développeuses du jeu ont effectivement mis un disclaimer précisant que si vous êtes, si vous avez eu vécu des violences homophobes, si vous êtes sensible à la question de l'homophobie et du sexisme, ne prenez pas le jeu pour ce qui est dit dans le jeu comme la parole des développeurs ou des développeuses en l'occurrence, et évitez d'y jouer si vous êtes trop sensible à ces questions-là, parce qu'elles ont eu des cas effectivement en test de gens qui trop affectés personnellement par ces sujets-là, se retrouvaient choqués ou en pleurs. Alors que c'est qu'un jeu où on regarde des discussions SMS, hein, c'est pas un jeu violent ou quoi que ce soit. Hein. Donc on est bien sur la même problématique que les militaires déjà traumatisés qui vont revivre les mêmes traumatismes à travers le jeu. Une dernière question ?
Le temps que le micro passe, il y a un autre écueil que nous on a en tant que game designer qui s'appelle... ce que Yann Bogost, donc qui est un game théoriste, a appelé les simulation gaps, qui en fait c'est une espèce de trou nécessaire entre le réel, ce qui se passe vraiment, et ce que le jeu est capable de retranscrire. Et parfois c'est justement ces espèces de trous qui soit créent le malaise, soit viennent par chance nous rappeler que ça reste un jeu et qui nous permettent justement de prendre un peu de distance par rapport à l'expérience qu'on est en train d'être vécu. Donc c'est autant des atouts avec lesquels il faut jouer que des problèmes, parce que ça peut aussi bien vous sortir de l'expérience que totalement... j'allais dire vous perdre d'une certaine manière dedans.
Alors il va falloir que la question soit rapide.
Est-ce que à votre connaissance, donc c'est une double question qui sera rapide quand même, est-ce qu'à votre connaissance il y a des gens qui utilisent des images d'actualité ou des pages des infos style passées sur France 3, France 2, etc. En les intégrant dans le jeu par rapport à... Ouais, vous entendez pas ?
Allez sur le dessus du micro.
Ok, ça marche. Est-ce que, à votre connaissance, il y a des jeux qui ont déjà utilisé des images d'actualité réelle en hybride ? Est-ce que ça pose des questions de droit ? Et je pensais par exemple à des images comme dans la série Cache Investigation. Est-ce qu'il y aurait des choses qui seraient intéressantes, comme des inserts un peu informatifs, et jouer avec les images d'Internet, jouer avec les images de YouTube pour faire une sorte de montage, quoi, de montage.
Sur l'intégration des images, il y a eu plusieurs jeux qui ont été faits par notamment France Télévisions, qui ont exploité des images faites pour des reportages télé type des 52 minutes. Je pense notamment à un jeu d'influence où là on joue un chef d'entreprise qui doit composé avec son spin doctor qui va lui conseiller de prendre plus ou moins telle décision dans une crise médiatique. Et ça, c'était couplé à un reportage télé en deux parties qui était diffusé sur France Télé. Et il y a des bouts plus ou moins bien intégrés du reportage télé dedans. Quand je dis plus ou moins bien intégrés, c'est qu'ils ne sont pas naturellement dans la narration. Et l'autre très bon exemple, alors très bon exemple sans jugement de morale derrière, c'est ce qu'a fait encore une fois Daesh, où ils utilisent leurs propres images de propagande et des images des médias internationaux pour les intégrer à leurs propres jeux vidéo, pour justement convaincre des personnes de s'embrigader. Mais encore une fois, il y a un traitement totalement partiel, bien sûr, de l'image et une sélection, et c'est la manipulation dans tout ce qu'il y a de plus pur.
Bon, j'arriverai pas à aller jusqu'à un épisode, enfin une scène de 52 minutes, mais il y en a dans ce jeu. Malheureusement, nous sommes à court de temps. Nous allons donc en rester là. Merci à tous.
Moi, je voulais juste ajouter un tout petit chose. Bon, parce qu'on a parlé de cancer, de terrorisme, d'enfants morts, de plein de choses réjouissantes comme ça. Mais du coup, il y a aussi plein d'autres tabous sur lesquels le jeu vidéo s'attaque aussi en ce moment, et c'est de plus en plus intéressant. Donc peut-on parler de tout, des choses dont le jeu vidéo a de mal traité, c'est le sexe, la sensualité, et il y a plein de choses de plus en plus intéressantes qui se font dans ce domaine-là, aussi bien bon dans des jeux traditionnels que dans des contrôleurs alternatifs, par exemple des jeux qui vont se jouer avec de vrais soutiens-gorge et de vrais caleçons en couple, des choses comme ça. Et donc ça, c'est un autre tabou que le jeu vidéo essaie de briser aussi en ce moment, et ça, c'est voilà, beaucoup plus réjouissant. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais pour une prochaine conférence peut-être.
Eh bien, merci à tous, et nous sommes disponibles pour ceux qui veulent discuter après la conférence.